Je vous propose de poursuivre avec le parcours de Tekle Gebreloul et le deuxième épisode consacré au parcours atypique de cet enfant soldat né en Érythrée et qui est devenu par la suite entraîneur de football au Groenland. Nous avons entamé cette série la semaine dernière avec ses souvenirs en Érythrée, sa vie d'enfant soldat. Eh bien, nous allons nous intéresser aujourd'hui au départ de Tekle Gebreloul pour le Danemark. Il a une douzaine d'années à peine à l'époque. Le jeune adolescent qu'il est va passer de l'orphelinat à l'hôpital psychiatrique. Il sera aussi confronté au racisme et le football va alors lui servir en quelque sorte d'exutoire. Voici donc le deuxième épisode de cette série réalisé par Emilien Hoffmann, Nicolas Tayana et Jean-Marc Vierset avec l'aide du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mes pieds sont mes meilleurs amis. Je les adore. Il y a plein de souvenirs, plein d'histoires là-dessous. Pour moi, ils sont plus importants que mon cerveau. Ils m'ont emmené dans tellement d'endroits, ils ont parcouru tellement de kilomètres. Et ils sont encore en vie.
Enfant soldat en Érythrée, entraîneur de foot au Groenland.
Voici l'histoire de Tekle Gebreloul. Deuxième épisode, réfugié au Danemark.
La guerre civile d'Érythrée semble enfin s'éloigner. En 1981, Tekle a 12 ans et il a surtout connu les bombes, les combats, les meurtres, l'errance. Retenu dans un camp de réfugiés au Soudan, l'enfant soldat reçoit la visite d'une représentante d'une ONG. Elle travaille pour Amnesty International et elle lui parle du Danemark, de la possibilité de s'y installer. Tekle acquiesce, pourquoi pas. De toute façon, il vaut mieux embarquer pour un pays dont on ne sait rien que de rester ici, vivre l'enfer. Le voilà donc dans un avion pour Copenhague.
Je suis arrivé au Danemark en novembre. On est parti de Khartoum au Soudan et on atterrit à Copenhague. Dans ma valise, je n'avais que des shorts, des sandales et des t-shirts. Et je n'avais jamais vu la neige, à part en photo. Alors je ne voulais pas sortir de l'avion, et c'est un policier qui a dû venir me chercher. Dehors, je n'arrêtais pas de me dire que tout était grand. Je m'arrêtais partout où je pouvais. J'étais surpris, intrigué, effrayé en même temps. Ce n'était pas la meilleure période de ma vie, même si c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là. Quand je sortais à l'extérieur, je n'allais pas loin et je revenais le plus vite possible, parce que j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver. Si tu débarques d'un endroit où c'est l'enfer, tu n'oses pas t'aventurer n'importe où. Même si on te dit qu'on va te faire visiter un peu, je n'osais même pas aller dans le lobby de l'hôtel. J'étais vraiment effrayé. Tout était nouveau pour moi. Personne ne parlait ma langue et je ne voyais personne qui me ressemblait. Je passais la plupart de mes nuits à la fenêtre. J'arrivais pas à comprendre pourquoi les lampadaires étaient allumés toute la nuit. Dans ma région, je ne pouvais même pas sortir après 18 heures parce qu'il fait noir. Et on n'avait pas tant de voitures que ça. Je me demandais, mais pourquoi y a-t-il toutes ces lumières? Pourquoi ces gens ne dorment pas? C'était vraiment un saut dans l'inconnu. Une dernière chose m'a frappé, les toilettes. Qu'est-ce que j'étais censé faire avec ça? Au début, je grimpais sur la cuvette. Je m'asseyais sur le dessus des toilettes. C'est la beauté des différences de culture. Dans les pays arabes, on s'assoit simplement. On a l'habitude de s'asseoir par terre. Moi, je pensais que je devais grimper sur les toilettes. J'ai fait ça pendant un mois.
Baladé entre l'orphelinat, les familles d'accueil et la maison de son meilleur ami, Tekle peine à trouver sa place. Dans cette société dont il ne connaît ni la langue ni les coutumes, il est déboussolé. À son arrivée à Copenhague, Tekle ne connaît pas même son âge. On lui mesure donc le poignet et on inscrit sur son titre de séjour une date approximative. Elle est censée coïncider avec sa morphologie. Officiellement, Tekle est donc né le 1er janvier 1969, un anniversaire qu'il n'aime pas tellement fêter. À l'école, on le traite comme un enfant, et lui a déjà le sentiment d'être un adulte. Il se terre alors dans le mensonge, pour ne pas avoir à dévoiler un passé encore trop douloureux.
Je ne pouvais pas leur dire que j'avais été enfant soldat pendant 4 ans et que j'avais tué une centaine de personnes. Que je ramassais des têtes, des bras, des jambes, qu'il y avait du sang partout. T'es fou, je ne pouvais pas dire ça à la classe. Je voulais surtout rien leur dire sur mon passé. Pas même sur ma famille. Rien du tout. Donc oui, j'admets, j'ai menti.
Et quel genre de mensonge? Tu lui disais quoi?
Ma mère fait ci, ma mère fait ça. J'ai une mère, j'ai un père. J'ai une sœur, j'ai un frère. Parfois, quand j'étais vraiment énervé, je leur disais, ma mère est morte le jour de ma naissance. C'est vraiment dur d'être un enfant et de se retrouver dans cette situation. Tu peux pas imaginer comme c'est dur. J'aurais voulu avoir une famille, mais j'en avais pas. Ça fait mal, surtout quand tu es chez ton meilleur ami. C'était vraiment magnifique chez lui. Mais quand il appelait sa mère, ça me faisait mal. Où est ta mère? Où est ton père? Crois-moi, c'est mieux de mentir. J'aurais voulu ne jamais exister. J'aurais voulu ne jamais arriver au Danemark. J'aurais voulu être mort. J'aurais aussi voulu mourir rapidement pour ne pas avoir à penser à toutes ces choses. J'aurais encore voulu ne pas avoir de main parce que je ne savais pas écrire. Je me souviens très bien être assis en classe. Dès qu'on me donnait des devoirs, ils étaient pleins d'erreurs. Tout ce que je faisais était faux. Tout. Forcément, ça n'arrange pas les choses. Je me demandais pourquoi j'étais venu jusqu'ici, pourquoi je m'humiliais à ce point. Et même si on essayait de m'aider, je ne faisais que me répéter que j'étais bête, que je ne savais rien. Je ne savais même pas écrire mon prénom. Ces idées noires ont mis du temps à me laisser tranquille.
Quelques mois plus tard, Tekle intègre un hôpital psychiatrique. Les cauchemars de la guerre le hantent. La nuit, il se réveille en sueur, trempé. Les médecins lui demandent de s'ouvrir et de raconter son histoire. Au début, il refuse, s'énerve. Il lance même une tape sur un psychologue. Il songe alors à commettre l'irréparable et pense au suicide. Avant de réaliser le bien que ça fait, de déballer son sac. Le sport permet à Tekle d'exorciser ses démons. Il déborde de colère et d'angoisse. Les terrains de football deviennent alors un exutoire. Et ça fonctionne plutôt bien. Le KB, le plus grand club de la capitale, lui ouvre ses portes. Le gamin a du talent. Un jour, lors d'un test d'endurance de 12 minutes, il explose les compteurs et ses limites physiques.
J'ai juste couru sans arrêt et j'ai couru vraiment, vraiment vite. Je détestais courir longtemps, mais sur ces 12 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste continué, puis on m'a dit de m'arrêter. Quand je l'ai fait, j'ai vomi. J'aurais pu courir toute la journée. Je crois que j'aime la souffrance que la course procure. Cette souffrance vient probablement de la guerre. Quand j'y repense, c'est lié à toutes ces choses.
De jeunes hommes blancs sont assis en rond. C'est l'été, ils sont en pleine discussion, une bière à la main. À leur côté, une poubelle taguée White Power, et là, sur un mur, l'inscription Ku Klux Klan. Dans les années 80, les Blousons Verts, ce groupuscule d'inspiration skinhead, sévit à Copenhague, une capitale danoise qu'ils disent envahie par les étrangers. Lorsqu'une chaîne publique leur consacre ce reportage, leurs propos racistes suscitent logiquement la polémique. Et en particulier cette phrase. Un nègre n'est pas un être humain, c'est un animal, disent-ils. Alors qu'il essaye de se reconstruire, Tekle doit donc faire face à cette violente xénophobie et ça réveille ses vieux démons.
Ils détestaient les étrangers. On allait à l'entraînement en vélo, ils savaient par où on devait passer, donc ils nous bloquaient pour se battre. Mais ce n'était pas une bagarre entre nous et eux, c'était une bagarre contre moi parce que je suis noir. Pour moi, ce n'était pas nouveau. Je me suis toujours débrouillé pour survivre. Je n'avais pas peur de me battre. Un jour, l'un d'entre eux a voulu me tester et il s'est cassé la jambe. Il était plus vieux que moi, on l'appelait Kung Fu Peter parce qu'il était grand et fort. Et je l'ai attrapé, lui et son vélo, je ne sais pas comment. J'étais tellement en colère. Je lui ai tapé dessus, il est tombé.
Je ne sais pas comment,
mais je lui ai cassé la jambe. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est pas bien de dire ça, mais je suis très content de l'avoir fait.
Et aujourd'hui, tu arrives à gérer cette colère, cette violence ?
Oui, aujourd'hui, je t'ai gardé le contrôle. Je m'en fous si quelqu'un me dit que je suis noir ou m'insulte. Ça ne m'atteint plus.
Après 30 ans de guerre de sécession contre l'Éthiopie, l'Érythrée est devenue officiellement, la nuit dernière, le 52e État d'Afrique. Les Érythréens ont dansé et chanté dans les rues d'Asmara, leur capitale, mais nous n'en verrons sans doute les images que demain. En Érythrée, en effet, il n'y a rien et pas non plus de chaîne de télévision. Évocation sur archive donc avec Nicole Brichet.
Indépendante, l'Érythrée l'est en fait depuis 2 ans. Depuis la prise d'Asmara, la capitale, le 24 mai 1991, par les maquisards du Front populaire de libération de l'Érythrée.
1993. Quand l'Érythrée obtient enfin son indépendance, Tekle a déjà refait sa vie. L'annonce le laisse pour le moins indifférent. Lui, l'ancien enfant soldat, lui, qui a longtemps rêvé de devenir médecin pour retourner aider son peuple. Il faut dire qu'il a d'autres choses à penser. Il est devenu père à 19 ans et élève seul son fils Sami.
Dans les années 90, je ne pensais pas du tout à l'Érythrée. Je crois que je m'en foutais. Je crois même que je détestais l'Érythrée. Honnêtement, est-ce que l'Érythrée n'était pas libre ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu régler les choses différemment ? Je pense que si.
Mais l'Érythrée était en guerre contre l'Éthiopie.
L'Érythrée était en guerre contre l'Éthiopie, mais aussi contre l'Érythrée. Il y avait des combats religieux, et chaque mouvement indépendantiste voulait être plus puissant que les autres. Donc ils se sont entretués. Au final, peut-être que je n'ai combattu qu'une seule fois contre l'Éthiopie. Toutes les autres fois, c'était contre mon propre pays, mon propre peuple.
Si l'Érythrée dispose enfin d'une reconnaissance à l'international et peut donc jouer à volonté son hymne, le pays va vite sombrer dans l'une des pires dictatures de notre époque. Tekle, lui, observe la situation de loin, de très loin même. Plutôt que de rebrousser chemin pour profiter des réjouissances, il a une toute autre destination en tête, le Groenland.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.